Chers frères et sœurs et chers amis, que représente la croix? C'est notre thème pour aujourd'hui, mais nous continuons la série « J'ai choisi le Christ ». Et donc le thème c'est « Que représente la croix ?» Oui, pourquoi voit-on des croix partout? En comprend-on vraiment le sens? Qu'est-ce que la croix et quel en est le message? La croix, ce n'est pas un crucifix, ce n'est pas l'insigne dépouillé et sacré que l'on peut opposer à l'étoile de David, à la stupa des bouddhistes ou au croissant de Mahomet. Ce n'est pas un bijou que l'on porte sur un vêtement ecclésiastique ou sur un décolleté. Cependant, la croix où l'Israélite Jésus-Christ s'est volontairement laissé clouer, cette croix est devenue le symbole inattendu, ô combien, du mouvement divin de la vie victorieuse. Voulez-vous qu'avec le secours du Saint-Esprit, nous partions ensemble à la découverte de ce mystère? Que ceci, tout d'abord, soit clair entre nous. Si Jésus-Christ, pour les mêmes raisons spirituelles qui amenèrent sa mort volontaire, avait été lapidé, il n'y aurait point de croix. Cependant, le mouvement divin de la vie victorieuse a été quand même démontré d'une façon absolument certaine. Donc, ce qui est important, chers amis, ce n'est donc pas d'abord le symbole. Non, nous pourrions posséder des dizaines de croix et en faire planter une sur notre tombe, et cependant ne rien avoir compris de sa signification profonde. Voyez-vous, une alliance au doigt de la main gauche, c'est simple, ça ne coûte que une dizaine d'euros. Toutefois, cela représente quand même l'union précieuse de deux vies, oui, de deux vies fondues l'une avec l'autre par la foi solennelle promise, la foi conjugale. L'union véritable a bien plus de valeur que son symbole et elle peut exister sans lui. Mais il y a plus, oui. Voyez-vous, il a vraiment plu au Seigneur que la croix représentât l'épreuve de la manifestation suprême du mouvement vital de l'Esprit éternel, comme le dit l'Écriture sainte dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Ce mouvement existentiel de l'Esprit divin, le mouvement de la vie victorieuse et salvatrice. Oui, ce système fondamental de la vie, c'est cet esprit victorieux et régénérateur que nous appellerons l'esprit de la croix. C'est lui que nous contemplerons suprêmement éprouvé, mais victorieux, et ceci durant les heures et les heures tragiques du calvaire. Voyez-vous, au cours du développement de cette série de calmes méditations, dont celle-ci n'est que l'introduction générale, l'esprit de la croix, qui est l'esprit de vie, eh bien, elle sollicitera nos cœurs. Et pour vivre, je dis bien pour vivre, pour être de vrais enfants de Dieu, nous nous laisserons pénétrer et habiter par lui. N'est-ce pas là notre besoin de notre prière? Est-ce peut-être aussi notre expérience? L'esprit de la croix, bien sûr, s'est manifesté avant de passer par l'épreuve dernière sur le mont Golgotha. Lisez la Bible et vous en découvrirez avec émerveillement les nombreuses démonstrations figuratives. Déjà l'incarnation en est une. Pour un esprit souverain, préexistant et conscient, quel abaissement que de consentir à s'enfermer dans le corps d'un bébé qui naît comme tous les bébés du monde, Philippiens 2, versets 5 à 8. L'esprit de la croix, c'est s'abaisser avec la grandeur de la simplicité. Et puis prenons aux 30 années d'attente, une attente volontaire et de contact avec les gens de Nazareth. Je ne peux plus supporter mes camarades de travail. C'est ce qu'a dit un jeune employé. Je ne peux plus attendre, me disait un jeune homme impatient de répondre à un appel de Dieu. Or Jésus supporta et attendit 30 ans. Oui, l'esprit de la croix est sincèrement et silencieusement endurant. C'est expliqué dans Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Voyez encore Jésus-Christ, immergé dans les eaux troubles du Jourdain, s'identifiant aux pécheurs, non pour les juger, mais pour les sauver, selon saint Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 15, ainsi que l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 15, et saint Matthieu, chapitre 18, verset 11. Donc, l'esprit de la croix est plein de commisération. Il ne recherche pas la tranquillité par l'isolement. Il communie avec la misère humaine. Et puis, voyez-vous, le jour vint où l'esprit de la croix, l'esprit éternel, l'esprit de vie, sortit des démonstrations à découvrir pour proclamer ouvertement son manifeste. Du haut du mont des Béatitudes, dans la lumière incomparable de la Galilée, oh comme j'aimerais la revoir, Jésus-Christ dit des choses capitales, des choses graves, avec une simplicité, une sérénité, une sensibilité bouleversante. Entendez-vous son message éternel au travers du langage d'aujourd'hui? Écoutez, ô homme, qui que vous soyez, vous n'êtes pas béni, juste et heureux, parce que vous possédez tel bien enviable ou parce que vous faites telle chose plutôt que d'autres. Devant Dieu et à l'intérieur de vous-même, vous êtes béni, juste, heureux, si vous êtes habité par un esprit nouveau. Il n'y a pas de correction possible de la circonférence de votre vie sans changement de son centre. Attention, sépulcre blanchi, qui extérieurement paraissait orné, mais qui intérieurement est plein de corruption. Attention, et vous les possédons. Possédez-vous des biens ou êtes-vous possédé par eux? Faites-en la preuve. Prêtez par exemple à ceux qui doivent emprunter. Il y a de grands périls pour votre âme dans la fausse sécurité de l'argent. Chers auditeurs, imaginez déjà les réactions de ceux qui entendent ce début de message. « Ah, Joachim, dit Rebecca, que ces choses sont difficiles à accepter. J'ai cru que l'Éternel gardait notre magot avec nous. Je suis troublé par l'esprit de ce Nazaréen, car il me semble pourtant qu'il dit la vérité. Rebecca d'autrefois, tu n'es pas la seule à être troublée par l'esprit de la croix. Mais reprenons notre écoute. Et vous les maîtres à penser, les savants, voici, je le déclare, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Saint Matthieu, chapitre 5, verset 3. « Et vous, les maîtres des traditions, des cérémonies et des rites, entendez, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Matthieu, chapitre 5, verset 8. « Ouvrez également vos oreilles, vous les maîtres de la justice, vous qui pesez dans votre balance, qui mesurez avec votre mesure et qui déclarez les autres coupables ou innocents, ouvrez vos oreilles. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Matthieu chapitre 5, verset 7. Oui, écoutez bien, vous qui désirez régner dans votre petit monde, que celui qui veut être le premier soit le serviteur de tous. Marc chapitre 9, verset 35. Il m'a visé, devait se dire le président, par exemple, avait peut-être voulu viser quelqu'un, ou le directeur, ou même l'administrateur va savoir, ou encore le chef de chantier, car il y a des chefs partout et ils ne savent que faire de l'esprit de la croix. Il m'a peut-être visé, il m'en veut peut-être, mais le lendemain, quand Ruben commanda abruptement quelque chose à son subordonné, et que celui-ci répondit « Bien, chef !» Ruben se sentit rougir. « Ah ! L'esprit de la croix ne laisse pas notre orgueil dans la tranquillité. » Mais le Seigneur poursuit ses déclarations. « Discernons-nous, chers amis, son message ? Et vous qui voulez châtier, vous qui réservez un chien de votre chienne à celui qui vous a fait du tort, vous qui croyez en la vengeance d'un œil pour un œil, d'une dent pour une dent, écoutez bien. Si l'on vous frappe sur la joue gauche, présentez la droite au soufflet. » Saint Matthieu 5, verset 38. C'est ça, voyez-vous, l'esprit de la croix. Vous qui voulez vous justifier par la force, par les arguments ou par les larmes, réjouissez-vous, au contraire, lorsque on dira faussement de vous toutes sortes de mal, car c'est Dieu qui vous justifiera. Matthieu 5, verset 11 et Romains chapitre 8, verset 33. Il faut vivre par la foi dans ce domaine aussi, car c'est ça l'esprit de la croix. Et puis, vous qui pensez enfermer Dieu là où vous voulez, et qui souvent effrayez les âmes pour qu'elles passent par vous, pour aller à lui, écoutez bien. Dieu est amour. Il fait grâce aux pécheurs repentants, mais il résiste évidemment au propre juste. Saint Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Comprenez-vous, pharisiens, si faussement fiers de l'absence de scandale connu dans votre vie? Sachez-le, et que tous l'apprennent. Dieu est un Dieu de prêt. Il n'est pas enfermé dans un temple dont vous êtes les farouches portiers. Non, il vit près de ceux qu'il aime. Il s'occupe des fleurs qu'il revêt et les oiseaux qu'il nourrit. Matthieu 6, versets 26 à 30. Oui, Dieu est immanent. Il ouvre, il œuvre et il règne. Ce n'est pas le sacerdoce ecclésiastique, si nécessaire soit-il, qui gouverne simplement les âmes. C'est lui, l'éternel Esprit. Ah oui, chers auditeurs, tout cela et d'autres vérités encore, celles que vous lisez dans l'Évangile, tout cela est révolutionnaire. Cela renverse complètement l'échelle des valeurs traditionnelles. C'était un monstre crâne qui s'annonçait à la bourse de la propre justice. Il fallait changer, réviser son jugement, changer d'esprit intérieurement, et puis d'attitude aussi dans la vie, ou bien alors périr. Désormais, une frontière était établie. D'un côté, il y a l'esprit de la chair, l'esprit mal inspiré par celui qui est le diable, évidemment, le menteur dès le commencement. Certes, cet esprit de la chair, l'esprit de l'homme naturel, est souvent intelligent, et il a ses raisons de justice, mais subtilement et irrémédiablement, il est au service du mal, au service de son moi. Et puis, de l'autre côté, il y a l'esprit éternel, l'esprit de vie, l'esprit de Christ, l'esprit de la croix. Le Seigneur veut nous délivrer de notre vaine manière de vivre. Premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 18. Et il désire créer en nous un nouvel amour, 1 Corinthiens 13. Une nouvelle liberté, 2 Corinthiens 3, verset 17. Une nouvelle justice, Matthieu 5, verset 20. Une nouvelle sagesse, Jacques, chapitre 3, verset 17. Chers amis, personne ne peut en douter. Il y a un appel puissant et comme un défi dans ce message des exigences et des possibilités de l'esprit de la croix. Il faut l'accepter ou s'en débarrasser. Et depuis plus de 2000 ans, ou bien les hommes ont accepté Christ et son esprit victorieux, ou bien, quel que soit leur credo, ils l'ont pratiquement maintenu hors de leur vie. Et ne point avoir l'esprit du Christ, celui qui l'animait et qui doit nous animer, c'est déjà sentir la mort, je répète, de ne point avoir l'esprit du Christ. Eh bien, celui qui l'animait et qui doit nous animer, eh bien, si on n'a pas Christ, si on n'a pas cet esprit de Christ en nous, c'est déjà, en quelque sorte, sentir la mort. Voyez-vous, aujourd'hui, comme au jour du Seigneur, être un enfant de Dieu, ce n'est pas appartenir à la synagogue, au temple ou à l'église. Être un enfant de Dieu, hériter de la vie éternelle, c'est demander, c'est recevoir, c'est avoir l'esprit de Christ, l'esprit éternel, donc l'esprit de la croix. Vivre en Dieu, c'est cela, cher ami. Et vivre ainsi, c'est vivre dans un rayonnement de joie et de vie qui se communique. Vivre selon l'esprit de la croix, ce n'est pas exister à demi comme des reclus volontaires. Ce n'est pas vivoter, c'est goûter à la vie épanouie, possible pour tous les jeunes et les moins jeunes qui ont soif de vérité et qui viennent à la source. Ô vous qui avez soif, venez à moi et buvez, dit le Seigneur dans Saint Jean chapitre 7 verset 37. Vivre selon l'esprit de la croix, c'est vivre une vraie vie que l'on peut expérimenter à Paris, à Berlin, aussi bien que dans un hameau solitaire. Car l'esprit de Christ est toujours le même, et il est partout le même. Alléluia. Disons ensemble, Dieu puissant, fais-moi vivre comme Jésus-Christ. Anime-moi jour après jour du même esprit, de l'esprit éternel, de l'esprit de la croix, de cet esprit de vie dont suprême, le don suprême de toi. Chers amis, voyez-vous, dès l'enfance, le païen en l'homme est impressionné par la force, d'où le succès des films, des livres et des jeux où la violence s'étale. L'enfant de Dieu, lui, découvre avec émerveillement quelle est la puissance inégalée de cette apparente faiblesse qu'est l'esprit de la croix. Tout comme vous, amis auditeurs, je suis horrifié par la possibilité fracassante que l'homme tient dans sa main. Mais instinctivement, je jubile devant la puissance douce, calme et silencieuse de la chaleur et de la lumière du printemps qui fait éclore des myriades de bourgeons et fait sortir la vie de sa tombe hivernale. On peut dire, c'est certain, car ceci, c'est notre foi éclairée. Et notre foi éclairée le constate bel et bien, que l'avenir de la vie n'appartient pas à la force de la chair, mais à la puissance de l'esprit doux et fort de la croix. Puissions-nous en être tous profondément convaincu dans chacune de nos journées de combat. Et maintenant, regardez, voici deux hommes face à face. Ici, il y a Hérode, l'Iduméen, le lointain descendant de l'homme roux, du bel homme animal, du chasseur que fut Ésaü. Là, c'est Jésus, Jésus-Christ de la lignée d'Israël quant à la chair et de celle de Dieu quant à l'esprit. Le premier s'est hissé à sa position royale par la force et la ruse. L'autre s'est abaissé lui-même. Il est doux et humble de cœur. Hérode le Grand est superbe dans ses vêtements de chef. Mais Christ, lui, a été affublé comme pour une mascarade. Et tous les deux se regardent intensément. Pour le Romain, arriver, c'est gagner. C'est être puissant et vainqueur par tous les moyens. pour Christ, être grand, c'est pouvoir laver les pieds des autres, selon Jean, chapitre 13, versets 2 à 5. L'un est animé par l'esprit de Rome, l'autre par l'esprit de la croix. J'imagine avec vous qu'un démon et un ange, côte à côte, regardent tout comme nous. Qui donc est le plus fort maintenant, bel ange, dit le démon, pour qui paries-tu? Pour Jésus-Christ, dit l'ange, pour Jésus-Christ, car il ira jusqu'au bout de son combat. De quel combat parles-tu? Reprend le démon ironiquement. De son combat d'amour, dit l'ange, par l'amour, il doit vaincre la haine. Certes, je suis chrétien, disait Robert, avant qu'il ne découvre le secret de la puissance cachée dans l'esprit de la croix. Certes, je suis chrétien, mais je ne me laisserai pas traiter comme un paillasson. Je ferai valoir mes droits et je lutterai jusqu'au bout pour la justice. Fort bien, Robert, mais quel est donc l'esprit qui t'anime? L'esprit de Rome que les démons stimulent ou l'esprit de la croix qui fait chanter les anges? Je connais l'histoire de deux chèvres qui se rencontrèrent face à face au milieu d'une longue poutre franchissant un torrent qui grondait 10 mètres en dessous. L'une agressive voulait passer de gré ou de force, l'autre contrairement à l'esprit de notre Robert de tout à l'heure, se couche sur la poutre et laisse la première passer sur son corps. Dans son triomphe, celle qui croyait avoir vaincu se retourna, mais voilà, elle glissa et disparut dans le torrent. Des deux, qui donc fut la plus sage? L'humble prudente ou l'agressive orgueilleuse? De Hérode le Grand ou de Christ l'humilié, qui triomphera? Oui, qui? La puissance de la force, croyez-moi, et de la ruse, ou celle de la faiblesse de l'amour persévérante. Qu'en pensez-vous, chers amis? Remarquons, sans tarder, que l'esprit de la croix n'a rien de commun avec la lâcheté, la mollesse ou le fatalisme, absolument pas. Il est le résultat d'un libre choix. Christ, mieux que quiconque, aurait pu agir avec une puissance et une autorité immédiatement irrésistibles, selon Matthieu chapitre 26, verset 53. Cependant, quand le temps fut venu, très conscient de ce qui allait se passer, eh bien, il tourne résolument sa face vers Jérusalem et se met en route pour y monter. Et chemin faisant, il parle calmement de sa mort. L'apôtre Pierre n'y comprend plus rien. Ce qu'il veut, lui, c'est le règne de son Seigneur, sans plus d'épreuves et sans mort, bien entendu. S'il doit y avoir mort, que ce soit plutôt celle des ennemis de son maître, évidemment. Lui, l'apôtre Pierre, y mettrait volontiers la main, croyez-moi. Mais Jésus-Christ repoussa l'esprit charnel qui animait cet ami plein de bonnes intentions. Il irait jusqu'au bout de l'amour, oui, jusqu'au bout de l'amour pour Dieu et pour les égarés. Oui, voyez-vous, l'esprit de la croix est courageux. Et comment? Il sait faire front, mais calmement, avec la ténacité de la divine persévérance. Chers amis, vous le savez très bien en vous, que la devise du chrétien n'est pas seulement sécurité d'abord, mais fidélité et service, et ceci même au prix du dépouillement et de la souffrance injuste. En notre époque d'assurance, tout risque, on peut le dire, dans nos églises où l'on chante volontiers, si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons aussi avec lui, avec Christ, dans les cieux, n'oublions pas. On ne sait presque plus ce que c'est que de souffrir avec Christ. Et parfois à l'école, au travail et ailleurs. On évite de dire que l'on est chrétien par crainte des ennuis. Lisez Saint Marc, chapitre 8, verset 38. En Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Chine, en Amérique du Sud, la souffrance est tellement habituelle, elle est si constamment attachée à la qualité de chrétien que c'est l'absence de persécution qui paraît anormale. Quand le Japon a envahi et a occupé la Corée, une terrible opposition fut déclenchée contre les responsables des églises. Ceux qui n'étaient pas jetés en prison pensaient qu'il devait y avoir une lacune dans leur christianisme. Ou si un pasteur méthodiste alla se plaindre à un missionnaire en lui disant « Maxa, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos églises méthodistes. Je crains que nous ayons manqué l'ardeur et de foi, car il y a 37 pasteurs presbytériens en prison dans notre district, mais seulement un seul pasteur méthodiste. Ce n'est pas tellement normal. Comment l'esprit de la croix est courageux? Oui, on pourrait se le demander, mais l'esprit de la croix doit être courageux, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? C'est notre devoir. Certes, l'esprit d'amour, l'esprit de la croix, fut terriblement éprouvé dans le Fils de l'homme. Il le fut dans le désert, immédiatement après que Jésus-Christ fut sorti de l'eau du baptême et que l'Esprit Saint fut descendu sur lui. Il le fut suprêmement dans un jardin tout au bord du dernier baptême, le baptême du sang dans lequel Jésus-Christ consentit à descendre. Je n'ose pas vous servir de guide dans ce jardin de Gethsémané au pied du mont des Oliviers. Seul le Saint-Esprit peut donner une révélation partielle, et ceci selon l'Écriture sainte et à la mesure de chacun. La tradition dit que cet enclos tranquille appartient à un sacrificateur, membre de la famille de Marie. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait en disposer librement. Quoi qu'il en soit, ce lieu était pour lui un endroit habituel de prière, comme le rappelle l'apôtre Jean dans le chapitre 18, verset 2. La vie n'est guère une occasion de victoire de l'Esprit de Christ si elle n'est pas aussi une occasion de prière. Pour Jésus-Christ, la nuit en Gethsémané fut la nuit la plus longue, la nuit d'un combat spirituel, d'une intensité extrême, la nuit où il réaffirma l'acceptation totale, tangible, définitive du Fils devant son Père. « Non pas ce que je veux, a-t-il dit, mais ce que tu veux. » Saint Matthieu 26, verset 39. C'est cela qui sera la décision centrale de mon baptême, disait une candidate à l'immersion. Elle avait compris l'essentiel, l'esprit où la volonté du moi ferait place au Saint-Esprit, à la volonté du Père, à l'esprit du Christ, à l'esprit de la croix. Telle est bien la décision de la vie chrétienne normale. Ah, certes, si l'apôtre Pierre avait été le chef, Jésus-Christ ne serait pas à Gethsémané maintenant. Il serait toujours sur la montagne de la Transfiguration comme un nouveau et vivant tabernacle. Saint Matthieu 17, verset 4. Et cela eût été magnifique. Mais l'apôtre Pierre est en Gethsémané et lui, il dort. Il n'a pas encore expérimenté les veilles et les combats de l'esprit de la croix. Car ceux qui en sont animés vivent des nuits blanches, souvent. Et le duel entre l'esprit du moi et celui de la croix est souvent un combat prolongé et angoissant. Jésus-Christ accepte devant Dieu d'être considéré comme un coupable, lui en qui il n'y a ni péché ni fraude. Mais désormais, il sera traité comme un criminel et il ne se régimbera pas. Allons-nous déjà chanter au Seigneur ce magnifique cantique ? Jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi, Jésus-Christ, pour toujours. L'avons-nous chanté ? Combien de fois ? Et pourtant, comme nous nous achoppons tellement facilement aux injustices humaines quand elles nous visent personnellement, n'est-ce pas, cher auditeur ? Mais regardez, on voit des disciples qui dorment et un Christ qui est tout seul et une troupe en armes qui s'approche. Et pour qui paries-tu, bel ange ? Crois-tu encore en la victoire de la faiblesse ? A dit le démon. Jésus, qui maintenant s'est relevé, reconnaît le traître. Et il voit bien ceux qui sont avec et derrière lui. Judas, est-ce par un baiser que tu trahis ? Et vous, n'étiez-vous pas dans le temple tout comme moi ? L'esprit de la croix n'est point aveugle, mais quoique clairvoyant, il persévère. Il ne résiste pas aux méchants. Il n'y a point de peur et par conséquent, point de colère en lui. La sagesse qui vient d'en haut est pure, elle est pacifique, dit l'Écriture sainte dans Jacques chapitre 3 verset 17. C'est alors que l'apôtre Pierre se réveille enfin, mais pour se fâcher surtout. C'est curieux, il y a toujours des chrétiens qui ne se réveillent que pour montrer leur mauvaise humeur. Autrement, on ne les entend jamais. L'apôtre Pierre, c'est l'esprit de la chair qui t'anime. Tu prends ton épée, tu la prends pour une bonne cause, dis-tu. et tu es prêt à frapper. Mais l'esprit de la croix repousse la violence. Il est pacifique, Jacques 3, verset 17. Prendre la croix et les armes, quel non-sens! Oui, persécuter au nom de la croix, mais quel blasphème! Pourtant, il me semble que ça a eu lieu. Être chrétien et méchant, quel malheur! Faire des procès de droit ou d'intention, quelle aberration! Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Jacques chapitre 3, verset 18. Et voici le dernier miracle de Jésus-Christ. Il guérit Malchuste, celui que l'apôtre Pierre a blessé, selon saint Jean, chapitre 18, versets 10 à 11. Il avait dit en Galilée, « Faites du bien à vos ennemis. » Il le fait maintenant. Et c'est ça l'esprit de la croix. Et le bien n'est-il pas une puissance plus convaincante que celle de la force qui répond à la force? Dans la cohue du métro de New York, un gros homme pressé bouscule un petit garçon qui porte un lourd panier d'oranges et de pommes. Le garçon est en larmes, car les fruits qui ont roulé partout étant pour sa mère malade. Mais il se fait encore apostropher rudement par l'esprit de brute qui habite le gros homme. Or un monsieur fort bien, qui est vraiment un monsieur de la classe, il hésite un moment pour corriger le malotru, et puis il se révise, il s'approche, il se baisse même, et il commence à ramasser les fruits épars. Ayant fait tout son possible, il sort encore une pièce $1 et la donne aimablement au Gavroche médusé en lui disant « Tiens, petit, tu en rachèteras d'autres s'il t'en manque. » Tandis que l'homme s'en allait, l'enfant, lui, cria avec un étonnement plein d'une intense interrogation « Et monsieur, est-ce que vous êtes peut-être Jésus-Christ ?» Voyez-vous, l'esprit de la croix se manifeste par des œuvres d'amour plutôt que par des actes de violence qui ont l'air justifiés. Oui, c'est ça, l'esprit de la croix. Et Jésus-Christ est lié. Il accepte les liens qu'il aurait pu, bien mieux que Samson, faire sauter comme de l'étoupe qui sent le feu. Cependant, il est plus libre que ceux qui vont n'importe comment sans savoir où. Oui, lui connaît le sens et l'esprit de la vie. Et tous, absolument tous, l'abandonnèrent. Ils l'ont carrément abandonné. Lisez le psaume 142, versets 4 à 7. Et puis, il sera même ridiculisé. Il faut d'abord ridiculiser carrément les justes que l'on veut condamner parce que ils sont gênants. Et dans un atelier, Arthur, tout fraîchement converti, fut ridiculisé longuement. Il demeura calme et aimable. Et puis il fut respecté et admiré. Et dernièrement, à l'occasion d'un gros ennui, un ouvrier bien plus âgé s'est adressé au jeune chrétien Arthur pour lui demander conseil. « Chers amis, avez-vous remarqué le silence de Jésus-Christ ? Lui ne croit pas à la puissance des plaidoyers de défense. Et vous, y croyez-vous vraiment ? Voyez aussi sa faiblesse extrême, faiblesse qui pourtant ne mendie même pas de la sympathie. Ne pleurez pas sur moi, fille de Jérusalem, et sur le chemin de Golgotha, où nous le laisserons pour aujourd'hui, il trébuche après la tension de la nuit, la flagellation et le chagrin. Alors il doit bien se trouver un esprit malin pour animer la langue d'un pseudo-sage qui, en hochant la tête, dira « Voyez, c'est certainement le doigt de Dieu qui pèse sur lui, car il trébuche et il va mourir. » Bel ange, pour qui paries-tu maintenant ? Moi, je mise sur Barabbas, car c'est lui qui est un fort, c'est un dur, c'est un vainqueur. Mais vois un peu ton Jésus-Christ. Quelle méthode et quelle attitude ! Cependant, chers amis, quiconque refuse de prendre la croix, quiconque refuse d'être animé par l'esprit de la croix et de suivre Jésus-Christ pour suivre le Seigneur, ne peut être un chrétien authentique. Je répète, quiconque refuse de prendre la croix, quiconque refuse d'être animé par l'esprit de la croix et pour suivre Jésus-Christ, ne peut être un chrétien authentique. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 24. Croire en Christ ne coûte pas grand-chose, mais le suivre en vérité exige un changement d'esprit et d'attitude. Ce n'est plus l'esprit du moi et toutes ces bonnes raisons qui doivent régner, mais c'est l'esprit de la croix. Et vous le savez bien, l'esprit de la croix est contraire à notre nature, aux exigences de notre justice ou celles de nos seuls droits. Pour être visité et animé de l'esprit de la croix, il faut accepter la mort à soi-même. Et il faut appeler le baptême de l'esprit nouveau, de l'esprit de la croix, selon Romains, chapitre 8, verset 5 à 9. La puissance du moi, celle des armes, de l'argent, de la langue, de la plume, ont accumulé les ruines et les menaces dans le monde, dans les foyers, dans les églises et dans d'innombrables vies. Mais l'esprit de la croix est le seul secret d'une bonne victoire, qu'il soit désormais, chers amis, celui de nos victoires. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner deux petits messages qui vont nous aider pour la prière, mais aussi pour continuer notre combat. Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Comment peux-tu résister au mal? Il y a un moyen. Les humbles sont si petits, si courbés, que les flèches du mal sont incapables de les blesser. Car l'ennemi qui est à l'origine de toutes les formes du mal ne fléchit pas les genoux comme les humbles. Voilà pourquoi ces flèches les survolent sans les atteindre. Tiens-toi donc dans l'humilité en présence de celui qui fait le mal et tu vaincras par l'amour. Et dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il est dit « Aspirez à l'amour. Ne recherche aucun bien autant que l'amour. Ne recherche aucune richesse plus grande que celle-là. Car dans les cieux et sur la terre, il n'y a rien de plus précieux que l'amour. Rejette comme de la boue l'amour de toi. Que l'amour de Dieu qui fait aimer le prochain comme soi-même trouve place dans ton cœur. Nous allons maintenant terminer par la prière. Seigneur, notre vie s'écoule fugitive et rapide. Le jour naît et finit. Les mois et les années recommencent et s'achèvent. Il semble que nous soyons emportés comme par un torrent dont les flots se précipitent avec d'autant plus de vitesse qu'ils approchent de l'abîme où ils seront engloutis. Qu'est-ce donc que notre vie, Dieu Tout-Puissant, c'est qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui s'évanouit ensuite. Aujourd'hui, nous sommes pleins de santé, de force, mais demain, la tombe recevra notre enveloppe terrestre immobile et glacée. Aujourd'hui, nous ne rêvons qu'espérance, projet de bonheur. Demain, nous verrons disparaître ces songes enivrants et l'avenir éternel et redoutable s'étendra devant nous. Insensés donc ceux qui vivent pour cette terre seulement, ceux qui ne pensent pas chaque jour et sans cesse à la fin inévitable et prochaine de cette vie, ceux qui ne savent pas rattacher leur existence terrestre à l'éternité. Insensés donc ceux qui s'efforcent d'oublier que d'un instant à l'autre, leur âme peut leur être redemandée. Seigneur, que nous ne soyons pas au nombre de ces insensés, mais que nous sachions nous préparer à tout quitter quand tu nous appelleras et apparaître en ta présence. Sauveur de nos âmes, Jésus-Christ, divin Rédempteur, aie pitié de nous et reçois-nous dans ta miséricorde. Nous nous confions en toi, car nous savons qu'il n'y a de salut en aucun autre. Ô Dieu merveilleux, ne rejette point notre prière et que ta grâce nous fasse vivre éternellement pour te louer et pour te bénir. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Ça, c'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et à bientôt à nouveau, je l'espère, car la série continue. La série « J'ai choisi le Christ ». À bientôt, chers amis. Au revoir.